Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 16. Une causerie au coin du feu. Un instant de silence suivit les dernières paroles du valet. Puis le maître demanda.
« Ah ça, es-tu bien sûr d'avoir entendu des écus se choquer ?»«
Si j'en suis sûr. »«
Ah mais oui que j'en suis sûr.
Et il n'y avait pas rien que des écus. »«
J'en réponds, il y avait aussi des louis. »
Alors, cela doit faire beaucoup d'argent.
Ah, ma foi, je le crois bien. Plus d'argent qu'on ne vendrait le port armé et deux ou trois hôtelleries comme celle-ci, encore avec.
Mais alors, si j'avais à moi une somme pareille, je serais riche, murmura le maître.
Vous voulez dire, nous serions riches, répliqua le valet.
Comment nous ?
Madame, c'est clair.
Que veux-tu dire ?
Je veux dire, si pareille aubaine vous tombait du ciel, vous auriez trop bon cœur pour ne pas partager avec moi.
Peut-être, mais comme pareille aubaine ne m'arrivera point.
Qui sait ? Interrompit le valet.
Et d'où diable veux-tu que ça me vienne ?
Vous pouvez hériter.
De qui ?
De vos parents.
Je n'en ai pas.
Vous croyez ?
J'en suis sûr.
« Eh bien, j'imagine que vous vous trompez. »«
Prétends-tu connaître ma famille mieux que moi ?»«
Oui. »«
Voilà qui est fort. »«
C'est comme ça. »«
Et ses parents, quels sont-ils ?»«
Tu serais, ma foi, bien embarrassé de le dire. »«
Point du tout. »«
Dis-le donc. »«
Vous avez d'abord un petit vieux juif bossu, dont je ne sais pas le nom, mais qui est votre parent le plus proche. »
Il loge chez vous cette nuit.
Lui, mon parent.
Sans doute.
Tu rêves.
Il est votre parent, puisque vous en hériterez.
Et cela ne tardera guère, car il est à cette heure bien malade.
Malade ?
Oh, très dangereusement.
Et de quoi ?
Le valet regarda tout autour de lui. Puis il se pencha vers son maître, et il dit d'une voix basse et sinistre.
« De quoi ?
Du coup de couteau que nous allons lui donner tout à l'heure au travers du corps. »
L'hôte tressaillit.
« Malheureux ! Balbutia-t-il. Songes-tu bien à ce que tu me proposes ?
Si j'y songe ?
Oui, pardieu ! Et vous aussi vous y songez, mon maître !
Vous êtes las de votre misère. C'est le seul moyen de vous enrichir.
L'affaire est superbe. Et elle n'offre pas le moindre danger. Le petit juif est vieux et faible. Il ne se défendra guère.
Mais sa fille ?
Ah, bah, vous la saignerez aussi, pendant que nous serons en train.
Quoi ?
Faudra-t-il donc la tuer comme son père ?
Madame, il me paraît difficile de faire autrement.
Elle est si belle, murmura l'hôte.
Ah, elle est belle ?
Je n'ai jamais rien vu de si beau.
Comme ça, elle vous a tapé dans l'œil.
Je donnerai la moitié de ce qu'il y a dans la valise du père pour que la fille soit à moi.
C'est un marché qui ne peut pas se faire.
La demoiselle pousserait des cris et nous mettrait une mauvaise affaire sur les bras. C'est moi qui me chargerai d'elle.
Et il y eut un nouveau silence qui dura quelques secondes. Ce fut le maître qui le rompit.
Je pense à une chose. Fit-il.
À quoi ?
Une fois l'argent entre nos mains, que ferons-nous ?
C'est cela qui vous embarrasse ?
Mais il me semble...
Il vous semble mal.
Rien n'est plus simple.
Enfin, ces cadavres, comment les faire disparaître ?
Cette fortune, comment l'expliquer ?
Écoutez, je fais une supposition. Nous voici riches. La valise est à nous. Nous l'ouvrons. Nous partageons.
Rien ne nous retient dans ce pays-ci, n'est-ce pas ?
Rien. Vous êtes ruiné ?
Complètement.
L'hôtellerie du port armé tombe en ruine.
C'est facile à voir. Vous n'avez ni l'envie de la réparer, ni l'argent nécessaire pour cela.
Comme tu dis, ni argent, ni envie.
Eh bien, aussitôt après le coup fait, nous mettons le feu aux quatre coins de la baraque.
L'incendie se charge d'expliquer la disparition des voyageurs.
Et nous, pendant ce temps-là, nous voguons vers d'autres climats.
Je crois que ton idée est bonne.
Pardieu, si elle est bonne! Elle est plus que bonne! Elle est excellente!
Nous irons à Paris. J'ai beaucoup entendu parler de Paris, et je brûle de le connaître.
Voyons, est-ce décidé?
Oui, à la bonne heure.
Dans quelle chambre avez-vous mis le bossu et sa fille?
Au numéro 1 et 2.
La porte ferme-t-elle en dedans?
Mal. Cependant, il y a un verrou.
Ça sera facile à démolir d'un coup d'épaule. Le vieux sera surpris dans son premier sommeil.
Vous courrez à son lit. Moi, je m'occuperai de sa fille.
Où sont les couteaux?
Là.
Le valet ouvrit un tiroir. Il y prit deux longs couteaux, de ceux qui servent à découper les viandes crues, et il se mit à les examiner d'un air connaisseur, en essayant successivement sur son doigt la pointe et la lame. Cet examen terminé, il hocha la tête d'un air peu satisfait.
Et pointé, ébréché, émoussé, murmura-t-il.
Le moyen de faire de la bonne besogne avec de si mauvais outils. Il rouvrit le tiroir et il prit une pierre longue de couleur ardoisée. Il humecta cette pierre avec quelques gouttes de vin et il se mit en devoir de repasser les couteaux. Aussitôt qu'Hébé avait entendu et compris les premiers mots de cette conversation effroyable, elle s'était penchée vers la mère Moloch et tout en lui appuyant une de ses mains sur la bouche pour la contraindre à garder le silence, elle l'avait éveillée doucement. Puis, la prenant par le bras et la conduisant auprès de la porte, elle lui dit tout bas
« Écoutez !»
La mère Moloch prêta l'oreille. Toutes deux assistèrent ainsi au monstrueux conciliabule.
« Que faut-il faire ?»
murmura Hébé d'une voix à peine distincte quand les projets des deux brigands se furent suffisamment dévoilés.
« Nous enfuir ?» répondit la vieille femme. « Et ces malheureux, les laisserons-nous égorger ?»«
Comment l'empêcher ?»«
En les prévenant ?»«
C'est risquer notre vie !»«
Qu'importe !»«
Et d'ailleurs, les prévenir, de quelle façon ? Sais-tu seulement où ils logent ?»«
Oui, je le sais. Avant de rentrer ici, j'ai vu de la lumière aux fenêtres de leur chambre. »«
Mais est-il possible d'arriver à eux sans passer par la pièce où sont ces deux hommes ?»«
Je vais du moins l'essayer. »
Et Hébé, joignant l'action aux paroles, amoncela quelques bottes de paille devant la fenêtre au carreau brisé. Elle monta sur cette paille, elle fit jouer doucement le châssis dans ses rainures, et sans avoir occasionné le moindre bruit, elle s'élança dans la basse-cour. La lune, nous l'avons dit, répandait dans le ciel et sur la terre les nappes de ses blanches clartés. Hébé entrevit une échelle à moitié brisée qui gisait dans la fange à côté d'un hangar. Elle la prit et, s'orientant de son mieux, elle la dressa contre la maison, de manière à parvenir à la hauteur de l'une des fenêtres du premier étage. Deux des échelons se brisèrent sous le poids cependant bien léger de son corps. Ceci ne la découragea pas. Elle se suspendit au montant de l'échelle et elle arriva jusqu'à la fenêtre. Alors, elle se mit à frapper légèrement avec ses doigts contre l'une des vitres. Ce bruit qu'elle rendait à dessein peu distinct ne sembla d'abord attirer l'attention de personne. Pourtant, Hébé ne s'était pas trompé. La fenêtre à laquelle elle frappait était bien celle de la chambre du juif Ézéchiel Nathan. Chapitre 17. Hébé à l'œuvre. Enfin, il se fit un léger mouvement dans la chambre. Une forme indécise s'approcha de la fenêtre et une voix que la frayeur rendait chevrotante demanda
« Que voulez-vous ? »
« Ouvrez !» répondit vivement Hébé.
« Et ne faites pas de bruit !»
La fenêtre fut entrebâillée. Puis le juif, toujours tremblant, balbutia
« Qui êtes-vous ? »
« Une femme, » répliqua Hébé.
« Une femme qui vient vous sauver. »«
Me sauver ? »
« Oui, vous et votre fille. »«
Mais quel danger nous menace ?»«
Un danger de mort. »«
L'argent que vous portez avec vous a tenté la cupidité de deux hommes infâmes. »« Dans quelques minutes, ils doivent vous assassiner. » En entendant ces paroles terribles, Ézéchiel ouvrit complètement la fenêtre.
« Entrez, »
dit-il à Hébé en lui tendant la main pour l'aider à escalader le rebord de la croisée.
« Entrez et expliquez-vous. »
La jeune fille s'élança dans la chambre. En quelques mots, elle mit le juif au courant de ce qu'elle avait entendu. Ézéchiel Nathan frissonnait de tous ses membres.
« Mais alors, murmurait-il, nous sommes perdus ?»«
Non, car vous êtes avertis. »«
Que faire ?
N'avez-vous donc pas d'armes ?»«
Oui, des pistolets que voici. » »«
Vous vous en servirez ?»«
Je crois qu'il vaudrait mieux fuir. » »«
C'est impossible. » »«
Pourquoi ?»
L'échelle qui m'a servi pour arriver à vous se briserait sous le poids de votre corps.
D'ailleurs, ces hommes vont monter. Votre fille n'est pas prête pour la fuite.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce que vous dites est vrai.
Il faut que j'éveille Déborah. Nous verrons ensuite.
Nathan courut à la chambre de sa fille et il en poussa la porte. La belle juive avait été réveillée par le bruit de la fenêtre qui s'ouvrait. Elle avait entendu des voix. Et se doutant bien qu'il se passait quelque chose d'étrange, elle s'était habillée dans l'obscurité.
« Seigneur, Seigneur !» balbutia Nathan. « Qu'allons-nous devenir ? Que puis-je faire, moi, chétif et faible, seul contre ces hommes ?»«
Nous sommes deux, » répliqua Hébé. « Vous êtes armés et j'ai un poignard. »«
Quoi ? Vous frapperez ?
Comme un homme ?»
Puis Hébé ajouta en s'adressant à Déborah.
« Ne tremblez pas, mademoiselle. Votre père et moi, nous saurons vous défendre. »
Déborah saisit une des mains d'Hébé et la serra entre les siennes, en murmurant
« Oh, merci, merci !»
Quelques secondes s'étaient écoulées. Hébé prêta l'oreille.
« Silence !» fit-elle ensuite en étouffant sa voix. « Silence ! Les voici !»
On entendait en effet craquer l'escalier chancelant sous des pas qu'on s'efforçait vainement de rendre légers. Les dents du juif s'entrechoquaient.
« Vos pistolets sont-ils chargés ?» demanda Hébé.
« Oui. Venez. »
Elle prit Nathan par la main et le plaça tout près de la porte, du côté du lit. Ensuite, elle approcha ses lèvres de son oreille et elle ajouta.
« Leur intention est de jeter la porte en dedans d'un seul coup d'épaule, si elle résiste, et de se précipiter l'un vers le lit où ils croient vous trouver endormi, l'autre dans la chambre de votre fille. « Attendez qu'il soit entré. Ne vous hâtez pas trop. Et tirez à bout portant. »
Nathan ne pouvait parler, mais il fit un geste d'adhésion complète à ce qu'Hébé venait de dire. Dans l'escalier, le bruit avait cessé. Un silence profond régnait. Ce silence dura à peu près une minute et sembla long comme une année entière aux trois principaux acteurs de cette scène. Soudain, on entendit un grattement léger contre le bois de la porte. Évidemment, quelqu'un cherchait le loquet de la serrure. On trouva ce loquet et la porte fut doucement ébranlée. Mais comme elle était fermée en dedans à la clé et au verrou, elle ne s'ouvrait point. Hébé toucha le bras de Nathan pour lui faire comprendre que le moment décisif approchait. Il y eut un nouveau silence qui sembla plus long encore que le premier. Puis un choc violent retentit. Les panneaux disjoints craquèrent, la serrure et le verrou furent arrachés. La porte, à demi brisée, céda. Deux hommes, dont l'un tenait de la main gauche une lanterne sourde, bondirent en avant comme deux jaguars. À la clarté tremblotante de leur lanterne, ils aperçurent Nathan debout et un pistolet dans chaque main. Le maître de l'hôtellerie poussa un cri sauvage et voulut reculer. Mais il n'était plus temps. Nathan fit feu de son premier coup. La balle frappa le gros homme à la tête. Le crâne vola en éclats et le misérable tomba foudroyé. En face de cette catastrophe inattendue, le valet tourna sur ses talons et regagna l'escalier. Mais Nathan, qui devenait brave maintenant qu'il n'y avait plus de péril, s'élança à sa poursuite. Le valet d'écurie avait déjà franchi une dizaine de marches. La terreur lui donnait des ailes. Nathan fit feu de son second coup et l'abattit.
« Sauvé ! » s'écria-t-il avec un enthousiasme grotesque. « Sauvé ! Sauvé ! Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en soit béni ! Mes deux balles ont touché le but.
Oui, sauvé, ajouta Déborah en se jetant dans les bras d'Hébé et en la serrant contre son cœur.
Oui, sauvé, mais grâce à vous. Mademoiselle, voulez-vous être ma sœur?
Votre sœur? Répondit Hébé.
Oh oui, et je vous aimerai de toute mon âme.
Puis elle se dégagea de l'étreinte de Déborah et elle dit.
Maintenant, ne perdons pas de temps. Tout ce bruit a pu donner l'alarme dans les maisons du village.
« Quoique nous n'ayons fait que nous défendre, nous pourrions être accusés de meurtre. Et Dieu sait que l'on ne se justifie pas facilement des accusations injustes. Profitons de la nuit. Prenons ma mère qui est en bas et partons.
Oui, oui, dit Nathan, partons.
Le juif chargea la valise sur son épaule. Hébé et Déborah passèrent les premières, franchirent dans l'escalier le cadavre sanglant du valet et gagnèrent la cuisine suivie par Nathan. Le feu brûlait toujours. La petite lampe de cuivre placée sur une table ne s'était point éteinte. Hébé appela la mère Moloch qui, tremblante encore, sortit de sa retraite. Nathan courut à l'écurie. Il harnacha Roboam à la hâte, tant bien que mal, il attacha la précieuse valise à sa place accoutumée, et nos quatre personnages se mirent en marche et s'éloignèrent le plus rapidement possible du village et surtout de l'hôtellerie du port armé. Ils ne couraient d'ailleurs aucun risque d'être poursuivis. Les paysans ont le sommeil dur. Aucun d'entre eux n'avait été réveillé par les deux coups de pistolet. Quant à la Marie Thorne au tablier gras, qui logeait dans l'hôtellerie, elle avait bien entendu. Mais la frayeur la clouait dans sa chambre, où elle s'était barricadée avec tout ce qu'elle avait trouvé de meubles sous sa main. C'est seulement plusieurs heures après, au grand jour, qu'elle se décida à ouvrir sa porte. On sait quel spectacle frappa sa vue. Elle fit retentir l'air de ses cris. Elle appela au secours. Elle rassembla tout le village. Les deux cadavres étaient déjà raides et complètement refroidis. On envoya quérir le lieutenant criminel de la ville la plus proche. Il arriva vers midi. On constata sans peine que le maître et le valet n'avaient reçu la mort qu'après avoir brisé la porte des voyageurs. Les longs couteaux dont ils avaient eu soin de se munir ne pouvaient laisser aucun doute sur leurs intentions. D'ailleurs, maître et valet passaient à bon droit pour des gredins, dont le pays se voyait débarrassé avec bonheur. La justice décida qu'il y avait lieu de passer outre. En conséquence, on ne se mit point à la poursuite des fugitifs. « Où allez-vous ? » avait demandé Déborah à Hébé quand la marche de la petite caravane se fut un peu ralentie.
« À Paris, » répondit la jeune femme.
« Nous aussi. »«
Eh bien, si vous y consentez, nous ferons route ensemble. »«
Si nous y consentons, oubliez-vous donc que je vous ai prié d'être ma sœur ?»«
Non, certes, je ne l'oublie pas. »
Les deux jeunes filles s'embrassèrent de nouveau.
« Comment vous appelez-vous, ma sœur ?» demanda la juive.
« Hébé, quel nom charmant !»«
Et vous, ma sœur ?»«
Déborah. »
Chapitre 18. Coup d'œil en arrière. Ainsi que Nathan l'avait annoncé à Déborah, le voyage jusqu'à Paris ne dura que 5 jours. Pendant ce temps, Hébé et la juive se lièrent de la plus étroite amitié. Interrogée par Déborah sur sa vie passée et sur sa situation actuelle, Hébé lui fit un récit qui embrassait tout son passé. Ce récit intéressa Déborah au plus haut point et donna une nouvelle force à son attachement naissant. Elle eût voulu ne plus quitter Hébé et l'installer auprès d'elle dans la maison de son père. Elle en parla à Nathan, mais ce dernier, malgré son aveugle affection pour sa fille, fit la sourde oreille. Sa ténébreuse existence d'usurier prêteur sur gage ne lui permettait point de laisser une étrangère s'introduire ainsi dans son intérieur. Déborah se consola un peu en songeant qu'Hébé viendrait la voir souvent, presque tous les jours. Comme bien on pense, Hébé promit. Nathan, quoiqu'il fût juif, par conséquent avare, se montra reconnaissant du service immense que la jeune fille lui avait rendu. Au moment de se séparer des deux femmes, en entrant dans Paris, il glissa dans la main de la mère Moloch une bourse qui contenait 20 pièces d'or. Hébé n'en sut rien. Son orgueil se serait cabré devant cette espèce de paiement offert pour une action généreuse. Les deux femmes cherchèrent un asile. La mère Moloch trouva, rue des Prouvaires, un petit logement qui, si misérable qu'il fût, lui convint parfaitement. Grâce à la libéralité de Nathan, elle put mettre dans ce logement quelques meubles indispensables qu'elle acheta d'occasion chez des fripiers du plus bas étage. 1 an s'écoula. Au bout de cette année, la situation de nos personnages était toujours la même. La mère Moloch, qui, nous le savons, avait rêvé de faire fortune à Paris au moyen des sciences occultes et en disant la bonne aventure, avait vu peu à peu se dissiper cette illusion. Vainement, sa réputation de sorcière et de devineresse s'était répandue
et accréditée dans le quartier. Ses clientes étaient rares, et la plupart, presque aussi pauvres que la nécromancienne, payaient bien mal les oracles qu'elle sollicitait. De temps en temps, lorsqu'elle passait dans la rue, la mère Moloch s'entendait traiter de sorcière et menacée de la chemise goudronnée et du fagot. Hébé passait pour sa fille. Les mauvais plaisants ajoutaient en riant qu'une si jolie fille, née d'une sorcière plus que mûre, ne pouvait avoir que le diable pour père. Ceci s'était répandu peu à peu, et Hébé avait reçu le surnom de la fille du diable. Nos lecteurs se souviennent-ils de la situation dans laquelle nous avons laissé le héros de ce livre, Raoul de la Tremblay? Pour leur épargner la fatigue de remonter à la précédente partie de ce livre, nous allons, en quelques lignes, remettre cette situation sous leurs yeux. Raoul, après avoir gagné des sommes immenses dans la maison de jeu de la rue Saint-Honoré, avait été dépouillé de sa montre et d'une partie de son or par les porteurs de sa chaise, qu'il avait, en outre, laissé pour mort sur le pavé de la rue des Prouvaires. Raoul, blessé et évanoui, avait été recueilli chez la mère Moloch par la fille du diable. Revenu à lui-même, la vieille femme lui avait fait les prédictions les plus étranges, et par son pouvoir magique lui avait montré dans une carafe d'eau un des plus lugubres tableaux de son avenir. Préoccupé de ses prédictions et de cette vision, Raoul avait quitté le logis de la rue des Prouvaires sans penser à s'enquérir du nom de la rue et sans recueillir quelques indices qui pussent plus tard lui faire reconnaître ce logis. Pendant un instant, il avait été frappé de la beauté radieuse de la fille du diable. Mais cette fugitive impression s'était effacée bien vite. Raoul avait monté sa maison. Cela fait, il s'était dit qu'il lui fallait une maîtresse et que cette maîtresse devait être choisie de manière à lui faire honneur. Le souvenir de Déborah, cette splendide et raphaélique créature, traversa son esprit. Il ignorait l'immense fortune de Nathan et il songea tout d'abord à séduire la jeune juive. Seulement, il ne trouvait aucun prétexte pour retourner chez Nathan. Ce prétexte, le juif lui-même le lui donna. Un soir, il aborda Raoul et lui demanda si sa montre ne lui avait pas été volée. « Oui, répondit le jeune homme. Elle est chez moi et je puis vous la rendre. Venez demain et je vous expliquerai tout. » Le lendemain, en effet, Raoul rentra en possession du précieux bijou qui lui venait de son père d'adoption, Réginald de la Tremblay, et auquel, pour cette raison, il tenait plus qu'à aucune chose en ce monde. Pendant cette visite, Nathan introduisit Monsieur de la Tremblay dans ce salon oriental que nous avons déjà décrit. Il le mit en présence de 4 tableaux de grands maîtres, ces tableaux merveilleux, ces diamants sans tache dont nous avons parlé et qui faisaient partie de l'appartement particulier de Déborah. « Voilà mes trésors, dit-il. Regardez, mon gentilhomme. Regardez et jugez. » Raoul regarda en effet. Son admiration se formula en des termes plus pompeux peut-être que sincères. Ce n'est pas que le jeune homme fût insensible au mérite hors ligne des œuvres magnifiques offertes à ses regards. Non, loin de là. Mais sa distraction et sa préoccupation étouffaient momentanément en lui le sentiment artistique. Il était ébloui de ce luxe asiatique étalé devant lui. Et puis, dans cette pièce où flottaient de vagues parfums, il lui semblait que Déborah avait laissé quelque chose d'elle-même, quelque parcelle de son âme et de sa beauté. Ses yeux ne pouvaient se détacher des portières de l'ampa, qui masquaient évidemment une issue intérieure, derrière laquelle peut-être se cachait la divine juive. Par moments, il lui semblait voir tressaillir cette draperie, et son cœur tressaillait en même temps. Au milieu du salon se voyait un guéridon de bois sculpté, d'un précieux travail. Sur ce guéridon était un gros livre entrouvert. Raoul, en passant, laissa tomber ses yeux sur ce gros livre. « Ah, par exemple » murmura-t-il assez haut pour être entendu de Nathan. « Ah, par exemple ! Voilà qui est étrange !» Le juif s'arracha à sa contemplation. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Pourriez-vous m'expliquer comment il se fait que ce livre soit ouvert précisément à cette page ?» Nathan s'approcha du guéridon. Il prit le volume et le regarda. « Un armorial ? » s'écria-t-il. « Ma foi, mon gentilhomme, ce livre ne m'appartient pas et j'ignorais sa présence ici. Quant à la page à laquelle il est ouvert, Je vois qu'elle contient la généalogie des marquis de la Tremblay, vieille maison de Picardie. Mais je ne connais personne de ce nom.
Et vous ?
Raoul ne répondit pas. Sa surprise et son émotion croissaient de seconde en seconde. Nathan continua à regarder la page imprimée en gros caractères et ornée de figures gravées sur bois.
« Ah ah ! Fit-il. « Voici le cuisson de cette famille. Un tremble d'or au champ de gueule, avec la devise « Trembler ne tremble ».
Mais cette devise, cet écusson, je les connais. L'un et l'autre sont émaillés sur la boîte de votre montre.
Oh, maintenant je comprends votre surprise à la vue de ce livre ouvert à cette page.
Vous êtes un La Tremblay, n'est-il pas vrai, mon gentilhomme ?
Oui, répondit Raoul. Je suis un La Tremblay, le dernier de ma race.
À peine le jeune homme avait-il prononcé les dernières paroles que nous venons d'écrire qu'un bruit subit se fit dans la pièce voisine. La draperie agitée s'entr'ouvrit violemment. Deux pâles visages de femmes se montrèrent à la fois. Puis la tapisserie retomba. On entendit un cri sourd auquel succéda le bruit mat d'un corps humain tombant sur un tapis.
« Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob !» murmura Nathan avec épouvante. « Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il donc ?»
Et il souleva vivement la portière qui séparait le salon de la chambre à coucher. Raoul s'avança derrière lui. Un spectacle inattendu frappa ses regards en même temps que ceux du juif. Une jeune fille d'une effrayante pâleur gisait inanimée sur le sol. Déborah s'agenouillait auprès d'elle. Dans la jeune fille évanouie, Raoul reconnut la fille du diable. Avons-nous besoin d'expliquer ce qui se passait ? Les faits, ce nous semble, parlent d'eux-mêmes. Hébé, avec son instinct de femme, avec l'expérience de sa vie amoureuse, avait bien compris que Déborah aimait ce mystérieux jeune homme qui par deux fois était venu chez Nathan et dont les armoiries portaient des gueules aux trembles d'or. C'était elle qui, sur la demande de la juive, s'était procuré un armorial et l'avait apporté au logis de la rue Saint-Honoré. Mais Hébé, elle aussi aimait. Elle aimait ce bel inconnu, heurté par elle à l'angle de la rue Richelieu, arraché par elle à la mort dans l'humble maison de la rue des Prouvaires. Oh, douleur ! Dans ce chevalier de la Tremblay, à qui Déborah avait donné son cœur, elle retrouvait l'homme à qui, de son côté, elle avait donné le sien. Déborah était sa rivale. Sa rivale. Et plus riche et plus belle, Déborah devait l'emporter dans la lutte qui s'engagerait entre elles. Voilà pourquoi Hébé venait de s'évanouir. Cet évanouissement était en quelque sorte la première scène du drame terrible prêt à se jouer entre ces deux femmes. La présence, dans le salon de Déborah, de l'armorial ouvert à la page qui contenait la généalogie de la famille dont il portait le nom, avait été toute une révélation pour Raoul. Il comprenait qu'il était aimé de la belle juive. Cette conviction, le devine, n'avait fait que l'affermir de plus en plus dans ses projets de séduction. Seulement, quand il voulut arriver à la réalisation de ses projets, il se heurta dès le premier pas contre des obstacles insurmontables. Déborah était mieux gardée que les odalisques dans le harem du grand seigneur, mieux gardée que les classiques pommes d'or du jardin des Hespérides. Au logis de la rue Saint-Honoré, il n'y avait pas de Cerbérus qu'on pût endormir en lui jetant un gâteau de miel. Quoique Ézéchiel Nathan fût une grotesque créature et qui plus est un impitoyable usurier, il avait un cœur de père. Sa tendresse pour Déborah était un culte. Mais cette tendresse ne le rendait point aveugle. La naissante passion de sa fille pour le beau gentilhomme ne lui avait point échappé. Or, comme il n'admettait pas qu'un mariage fût possible entre un La Tremblay et l'héritière d'une race maudite, il s'était dit que Raoul chercherait à séduire Déborah. Disons-le à sa louange, Nathan aurait donné son sang, sa vie, jusqu'à son or, plutôt que l'honneur de sa fille. Il établit autour de sa maison une surveillance occulte, mais incorruptible, qui devait déjouer, et qui déjoua en effet, toutes les tentatives de Raoul. Ce dernier eut beau prodiguer l'or et soudoyer, avec une libéralité princière, les agents les plus discrets et les plus rusés, aucun de ses émissaires ne put seulement franchir le seuil de la maison de Nathan. À plus forte raison, aucun ne parvint à échanger un seul mot avec Déborah ou à lui remettre un billet. Tout ce que Raoul acquit, ce fut la certitude qu'il ne réussirait pas. Il apprit en outre que Nathan, malgré son existence misérable et sa pauvreté apparente, était un des plus riches capitalistes de Paris et que sa fortune pouvait, sans exagération, s'évaluer à plusieurs millions.